Hydrométéor, voilà la nouvelle proposition, une des propositions estivales du lieu d'art, la halle, la Pontarroyan, avec en présence de cet aspect artistique et très documenté aussi, Marie Wazzani et Nicolas Carrier. Bien déjà, un grand bonjour aux artistes. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et bonjour Nicolas.
Bonjour.
Tout d'abord, la parole à la commissaire d'exposition du lieu d'art La Halle, Giulia Turati, pour nous introduire dans ses perspectives autour du réchauffement climatique très campé et assez personnalisé par les artistes.
Oui, bonjour. C'est vrai que cette invitation à Nicolas et Marie, je connaissais d'abord leur travail et ensuite on s'est rencontrés en vrai. J'ai trouvé vraiment très intéressant cette ligne qui guide vraiment leur démarche d'être sur une problématique qui est très ancré dans notre quotidien, qui est même, je veux dire, au centre du débat des dates actuels, qui est un risque réel, c'est-à-dire les changements climatiques et la crise qui en découle, mais avec un prisme qui est celui de la fiction, voire de la science-fiction même. Et on est toujours dans une certaine ambiguïté face à leurs œuvres, qui rend je trouve, la visite des expositions intéressantes parce qu'on est toujours dans un sens d'alerte, de prise de conscience de certaines choses et en même temps, l'ambiance qui est donnée est très suspendue, voire anachronique. On ne sait pas si on est dans un futur proche, si on retrouve quelque chose qui est déjà passé, si on est dans le présent. Donc il y a vraiment quelque chose qui pour moi est très intéressant comme ça. Et aussi ce qu'on a décidé ensemble, et j'en suis très heureuse pour cette exposition-là en particulier, c'est de prendre une entrée qui était plus liée à l'eau, à l'élément de l'eau. C'est vrai qu'ils sont très connus aussi pour un travail plutôt botanique autour des plantes. Et donc là, c'était de faire un pas d'à côté pour rentrer dans leur travail et faire une proposition qui prend cet élément-là vraiment comme fil rouge un peu des œuvres. Parce qu'il y a des œuvres qui ont été créées pour l'occasion, mais il y en a d'autres qui existaient déjà, qui ont été fruits de diverses résidences notamment, et en particulier en Asie. Et donc voilà, donc c'est un peu le voilà comme ça que le travail a démarré et qui aboutit aujourd'hui avec l'ouverture proche de l'exposition Hydrométéor.
Justement, cet intitulé Hydrométéor, peut-être une petite définition autour de ce qui compose une transversale dans l'exposition, Marie Wazzani et Nicolas Carrier. Marie ?
Alors le titre, comme souvent dans nos titres, part de recherches et d'emprunts étymologiques qu'on fait souvent à la science. Donc hydrométéor, c'est plus précisément un terme qui vient de la météorologie et qui désigne les eaux qui sont en suspension dans l'atmosphère. On aime beaucoup ce titre parce que, évidemment, donc, déjà, la météo, ça prend une part importante de notre travail. Mais aussi, dans Hydrométéor, évidemment, il y a une part de fiction. Parce qu'il y a la météorite, le ciel. Et ça nous intéresse énormément. Et vous allez voir dans les travaux, notamment de vidéos, souvent, il y a des textes. Et ces textes sont souvent inspirés de vocabulaire qu'on emprunte à la science et qu'on détourne pour leur pouvoir de fiction et de porte d'entrée dans un imaginaire. Donc ce titre rentre tout à fait dans cette...
En fait, le terme scientifique également, est, les deux mots, enfin hydrométéor est attaché. Nous, on a, en plus de prendre ce terme, on a détaché hydro et météor, justement pour renforcer l'aspect science-fictionnel de cette idée météoritique.
Donc s'emparer de différents médias et un socle aussi scientifique bien avéré hein, pour donner toute la dimension personnelle et tout ce qui va composer des perspectives hein, qui ont été imaginées par vos soins. Quand on parle de différents médias qui donnent cet élan, de quoi parle-t-on? Comment pourrait-on préciser le projet?
Alors dans l'exposition, il y aura plusieurs installations vidéo qui sont des vidéos sur plusieurs écrans. Il y aura également deux pièces photographiques qui ont été prises à partir de films instantanés et qui sont donc encadrées. Il y aura également une installation au sol à partir de végétaux et de métal et un papier peint qui est un scan de pollen collecté et agrandi une centaine de fois, on va dire. Et enfin, il y aura une pratique qui est assez récente dans notre travail, qui est de la peinture à partir d'infusions de plantes. Donc là, il y aura des peintures de soucis. et une peinture de ruines de Rome.
Alors à partir de ces différentes propositions, il y a des œuvres qui ont été réalisées au préalable et puis certaines sur le site.
Oui, alors là, cette exposition, c'est sans mauvais jeu de mots, ça cristallise un moment dans notre travail qui associe à la fois le résultat de résidences récentes. Donc notamment, les deux vidéos sont des vidéos qui ont été tournées en 2023 et 2024. Donc une autour du lac Balaton en Hongrie et la seconde à Taipei, à Taïwan. Et aussi également, comme nous sommes dans un centre d'art, on a eu le luxe de pouvoir produire des nouvelles œuvres, notamment... les installations, donc il y a deux gestes in situ, et évidemment les peintures également, qui sont des pièces tout à fait récentes, qui viennent d'être produites. Donc ça s'articule vraiment à la jonction de travaux très récents et de productions tout à fait nouvelles.
Un peu à l'image de Flora Moscovici, qui donne un côté extérieur à la halle, avec une œuvre en perpétuel mouvement. C'est un petit peu aussi peut-être le cas de ce qui va se passer dans le lieu d'art la halle.
Oui, donc ces deux installations vont évoluer au fur et à mesure du temps. Donc la première, qui s'appelle Faille, donc est une collection de feuilles de lierre qui sortent par une fissure dans le mur, qui va donc sécher au fur et à mesure et prendre la forme justement de cette faille. Et pour la deuxième installation, qui s'appelle Musa Tétanos, qui est une collection également de feuilles de bananier. Donc Musa, c'est la famille des bananiers. Là, en fait, par condensation entre les feuilles et le métal, donc les feuilles vont se mettre à moisir et le métal va rouiller pendant la durée de l'exposition.
On est toujours sur un fil, semblerait-il, entre la fiction, l'aspect documentaire. Vous jouez un petit peu avec ça. Qu'est-ce qui a donné naissance aux œuvres? C'est l'aspect scientifique que vous révélez artistiquement ou un côté artistique qui se documente?
C'est plutôt notre travail part d'observation et d'une attention particulière qu'on porte en permanence aux environnements perturbés. Le côté scientifique, en tout cas les recherches qu'on fait après, viennent dans un deuxième temps et nous permettent de confirmer nos intuitions. Donc ça part plutôt d'observation, de gestes et de formes artistiques qui nous intéressent et des liens qui se tissent avec ces questions scientifiques après.
Il y a une critique de cinéma qui a défini notre travail comme ça, qui disait que c'est des fictions sans énonciation. Donc on est quand même vraiment dans la question de la fiction et très peu dans la question du documentaire. Voilà, mais qui ne s'annonce pas en tant que tel.
D'accord, mais toujours un petit peu des éléments qui interpellent à ce niveau-là, ou dans la fiction, il y a toujours un petit quelque chose qui rappelle le documentaire ou...
Disons que comme il n'y a pas de récit dans ces fictions, oui. Donc c'est ce qu'on veut dire par fiction sans énonciation, c'est-à-dire qu'il y a l'idée dans notre travail de ne pas choisir la forme du récit, parce que justement le récit, les grands récits ont été ce qui a amené l'être humain vers cette question du progrès, cette recherche du progrès, et qui pour nous est caduque aujourd'hui. Comme il n'y a pas de récit dans ces fictions, il y a quelque chose qui peut faire tendre qu'à du documentaire, mais dans notre façon par exemple de filmer ou de prendre des photos quand c'est sur ces médiums-là, il y a quand même avant tout une recherche plastique, notamment un jeu sur le flou, dans le montage en tout cas, oui, le collage, mais également dans le cadrage, d'être dans autre chose qu'une présentation documentaire d'un espace ou d'une situation.
Comme quelque chose à la base qui vous a stimulé pour entreprendre ce travail artistique. Vous avez fait des voyages, vous avez observé des choses comme ça qui ont un peu stimulé l'imagination.
Je pense que notre travail est un peu une manière de répondre à l'anxiété que génère la crise climatique et un peu une sorte d'éco-anxiété. Et c'est plus une manière d'imaginer comment on va vivre en fait sur des ruines fonctionnelles, qui est un peu notre monde, et comment on va essayer de surmonter tout ça et de créer une sorte de monde vivable avec des nouvelles relations entre les différents corps d'un paysage au sens large, que ce soit humain, non humain, architecturaux. Et vraiment, notre travail est pour nous une manière de créer cette alternative, ou de la proposer en tout cas, ou de l'imaginer, de la penser.
Deux séquences de films qui tourneront simultanément, c'est ça, dans le lieu d'art?
Oui, en fait, c'est des vidéos plus que des films, disons. Donc en fait, c'est à chaque fois deux vidéos sur des doubles écrans. Mmh. Avec un jeu justement sur un format très particulier, qui est un format très panoramique, puisque par moments les plans sont sur les deux écrans, et puis par moments il y a des collages entre justement deux plans différents. Et donc c'est des vidéos qui seront en boucle, qui durent une dizaine de minutes, un peu plus de 10 minutes chacune. Donc l'une a été tournée à Taipei, donc, comme on le disait tout à l'heure, et puis une autour du lac Balaton. Mmh. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est des vidéos dans lesquelles donc il y a du texte, qui est un texte poétique qu'on écrit à partir de recherches également, qui sont tous les deux dans la langue de l'endroit dans lequel on tourne. Donc ces deux vidéos seront donc en hongrois et en mandarin. Bon, évidemment, pour le visiteur, il y aura sur la feuille de salle la traduction en français.
C'est vrai que c'est des éléments comme ça qui apparaissent à l'écran sur un fond noir, mais une fois qu'on les lit, il y a en dimension presque de poème ou d'haïku qui est très intéressant. Enfin, en fait, l'effet d'avoir la traduction sur la feuille des salles n'est pas uniquement pour donner accès à cette information, mais c'est aussi pour donner une place aussi au texte, en fait, qui est un réel travail d'écriture en soi, pas juste l'écriture filmique, donc, mais même ces petites légendes, ces petits textes qui ont, comment dire, dans leur intégralité, une force en soi.
Le vrai personnage de ces vidéos, c'est pas tant l'humain, mais c'est plutôt ces paysages. L'humain, pour nous, n'est qu'un élément parmi les autres. Et quelque part aussi, dans notre façon de le filmer, souvent, on le décadre, on le morcelle. C'est une façon un peu de le remettre à sa place. Et justement, ce qui est intéressant, ce qu'on essaie de créer dans notre travail, c'est ce que disait tout à l'heure Marie, c'est de créer justement des nouveaux liens, des nouvelles formes de cohabitation entre les différents éléments. Donc ça peut être de ces écosystèmes, donc ça peut être à la fois des animaux, mais ça peut être évidemment des plantes, souvent, mais également des microparticules de pollution, par exemple. Ça peut aller de la microparticule de pollution à l'architecture monumentale en béton, aussi aux hyper-objets, comme les théorise Timothy Morton, donc la question des ondes, du pollen, de l'eau. Donc il y a ce lien, en fait, et comme je citais Timothy Morton, je vais un peu aussi contrebalancer en une chercheuse qu'on aime beaucoup, c'est Anna Tsing, évidemment. Et donc, justement, comment elle, dans Le champignon de la fin du monde, notamment, comment elle s'intéresse à ce Matsutake pour finalement parler du capitalisme, des ruines du capitalisme, etc. Donc, il y a quelque part, pour nous aussi, il y a cette façon d'aborder, par exemple, dans la vidéo à Taipei, l'alocasia, une plante particulière, mais qui nous permet de parler aussi de beaucoup d'autres choses, et notamment de la question de la disparition, et du deuil, et de la façon d'hériter de ce monde et de ses ruines.
Un petit point, par exemple, dans les vidéos, à chaque fois, il y a une figure humaine qui pourrait paraître seule, mais en fait, c'est juste que le travail s'intéresse surtout aux relations qu'elle a, qui sont assez riches, qu'elle entretient avec le paysage. Et du coup, on n'a pas plein d'humains qui interagissent entre eux, mais on a plutôt un humain qui interagit avec en fait, tout un écosystème et son environnement.
Aussi, on est beaucoup inspiré par les univers post-apocalyptiques. Donc justement, on parlait de science-fiction et comment finalement l'humain peut être un peu moins nombreux, un peu plus seul, s'en sort aussi.
Vous êtes vous-même scientifique de formation. Vous avez eu des liens avec des ressources humaines dans ce secteur aussi?
On n'est pas du tout scientifique de formation. Par contre, on est très curieux. Donc on s'intéresse à énormément de choses. Et en fait, dans certains, par exemple, voilà, la vidéo qu'on a fait en Hongrie, c'était lors d'une résidence en partenariat avec un institut de limnologie, donc qui est l'étude des lacs. Marie.
Oui. Dans ce cas précis, on a collaboré donc avec l'équipe de chercheurs et notamment le laboratoire, parce que les poissons qu'on voit dans cette vidéo sont des poissons de laboratoire, en fait, qui sont dans les aquariums de laboratoire pour les expériences. Donc on collabore quelquefois avec des botanistes, mais pas toujours, parce qu'on aime aussi bien cette position qu'on a en tant qu'artiste de complet amateur, c'est-à-dire que nous, on peut se permettre de récupérer du vocabulaire scientifique et d'en extraire la matière poétique. Et de se dégager aussi de cette exactitude. Voilà, donc on aime beaucoup cette position qu'on garde.
Oui, ça peut avoir des aspects poétiques, la science, avec le vocabulaire.
Et bah, c'est aussi surtout que, justement, le savoir scientifique est aussi un récit, justement. Et donc, pour essayer de dégager de multiples récits et peut-être aussi de casser ce récit du progrès, essayer de trouver de la poésie dedans.
Merci, Marie Ouadzani et Nicolas Carrier. Pour ce qui concerne justement les possibilités de voir l'exposition et pourquoi pas de participer à des temps forts, eh bien, on retrouve Jonathan Ferrara. Bonjour Jonathan.
Bonjour. Donc l'exposition, elle sera visible donc, depuis le vernissage du 13 juillet jusqu'au 21 septembre. Et elle sera visible tout l'été aux horaires d'ouverture de la halle, qui sont, pour rappel, les mardis et vendredis de 16h à 19h, les mercredis et samedis de 9h à midi et de 14h à 18h. Et on vous signale aussi qu'on aura une petite période de fermeture estivale du 5 au 10 août. Donc ne venez pas à la halle, à ce moment-là, on sera fermé. Par contre, on aura des propositions à destination du public autour de l'exposition. Donc tout au long de l'été, aux horaires d'ouverture, on mettra à votre disposition un petit livret-jeu pour appréhender les œuvres de manière ludique et s'approcher aussi un peu de l'aspect SF qu'on retrouve dans le travail de Marie et Nicolas. C'est un livret qui est conçu donc comme un petit escape game, on peut dire ça, et qui vous invitera à naviguer dans les salles d'exposition pour récupérer un mystérieux message venu du futur. À découvrir donc tout l'été pour les enfants à partir de 7 ans et de leurs parents. Et puis samedi 21 septembre, pour la fin un peu de l'exposition, on aura aussi un temps festif autour de la résidence de Valentin Defoe, un projet qui, pour rappel, a été mené par l'artiste sur l'année scolaire passée avec différents groupes du territoire de Saint-Marcellin et qui sera présenté parallèlement à l'exposition Hydrométéor dans l'espace showcase et l'auditorium. Et donc le 21 septembre, nous vous invitons à venir participer au démontage de l'installation autour d'un goûter et pour les participants, venir récupérer vos créations.
Rappelez aussi que cette exposition a un deuxième volet. En tout cas, il y a une exposition parallèle à Valence, vraiment pas très loin de Pont-à-Royan, à la Bourse du Travail, ouverte aux mêmes dates. Elle a ouvert déjà la semaine dernière et c'est jusqu'au 22 septembre. Donc l'exposition Nuances Forêt, visible à quelques kilomètres d'ici et qui complète un peu la proposition faite pour la halle. Donc, découvrez les deux.
Eh bien, merci Giulia Turati et merci Jonathan Ferrara. À très bientôt à la halle pour cette exposition Hydrométéor.